réseau Cogeco. Vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Marie-Claude Lavallée. Le
Québec maintenant. Pour notre belle rencontre de l'été, ce soir, on accueille une femme qui a envie de changer le monde, le rendre plus juste, plus équitable, qui accepte de mettre des heures de sa vie à cette mission, qui accepte aussi de se diviser entre sa vie professionnelle si exigeante et sa famille de 3 enfants. C'est une maman qui aime aussi passer du temps en famille. On ne pourra jamais lui reprocher de ne pas être une battante. Et c'est une femme qui a aussi connu des moments terriblement difficiles. Madame Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec et députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, est avec nous. Et c'est la femme qu'on accueille aujourd'hui plus que la politicienne. Bonjour, Madame Anglade.
Bonjour, puis je suis très contente qu'on accueille la femme d'abord ou la personne. Hein? C'est souvent...
C'est sûr qu'on va quand même parler un petit peu de politique puisque c'est vous aussi, c'est-à-dire que ça fait partie de l'être humain que vous êtes puisque ça fait quand même pas mal d'années que vous êtes impliquée. Puis quelqu'un entre les branches me disait que déjà à l'université, vous étiez déjà impliquée sur des comités puis des groupes. Alors, ma première question est toute simple. Quand on pourrait avoir un horaire de 9 à 5 comme d'autres, bien vivre, avoir plein de temps pour soi, sa famille, ses amis, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir ce travail qui laisse si peu de temps justement pour vivre?
Ben, je pense que d'abord, c'est quelque chose qui doit te prendre dans les tripes. Quand les gens me disent pourquoi tu fais de la politique ou pourquoi je devrais en faire de la politique, les gens qui se posent la question s'ils devraient y aller ou pas, je leur dis souvent, ben, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de changer? Puis, si tu as une passion, qu'il y a un sujet qui t'interpelle, ben, vas-y. Dans mon cas, j'ai toujours été engagée, pas nécessairement en politique, mais impliquée. Puis, dans mon cas, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'on peut avoir une société dans laquelle chaque individu peut être tout ce qu'il peut être. Il peut atteindre son plein potentiel, peu importe ses origines, peu importe le milieu social dans lequel il vient. On a plein de barrières dans notre société. Comment est-ce qu'on fait pour éliminer ces barrières-là et rendre notre société plus juste et faire en sorte que toute personne peut avoir sa place au soleil? Moi, je pense que c'est d'abord ça et avant tout qui a motivé mon...
Le moteur, mon le vrai
le
moteur.
Le vrai moteur, il est là.
Et le plus grand rêve politique, vous venez de le résumer un petit peu, mais celui-là où vous verriez une situation puis vous vous diriez... Mission accomplie comme première ministre.
Si on était dans une société où chaque personne était capable d'atteindre son plein potentiel, là, ça c'est mission accomplie pour moi.
Plein potentiel, ça veut dire peu importe le milieu duquel on émerge, qu'on puisse aller à l'université, faire des études.
Ou ne pas aller à l'université et décider que ce qu'on veut faire, c'est d'aller parcourir les différentes régions du Québec ou parcourir le monde et puis faire des photos parce que c'est la photographie qui nous passionne.
C'est ça,
aller vers ce qui t'interpelle et ne pas sentir que tu seras jugé et atteindre ce plein potentiel. Là, moi, je pense qu'à ce moment-là, là, on aura atteint une société idéale.
Les prochaines questions, Mme Anglade, vont être en partie pour aider les jeunes à savoir à quoi ça ressemble être en politique en ce moment. Quel a été le plus grand choc quand vous avez atterri en politique, que vous vous êtes retrouvé ministre?
Alors, le plus grand choc, probablement le fait que c'est multiple. Hein. Ça n'arrête jamais. Alors, tu as ton comté. T'es député, t'as ton comté, t'as des commettants qui viennent te voir, qui te parlent de leurs enjeux. T'as l'Assemblée nationale, t'as une période de questions. Quand t'es ministre, t'as tes fonctionnaires avec lesquels tu travailles. Peut-être t'as un caucus également avec lequel tu travailles. T'as les médias, les différents groupes de pression. Alors, c'est infini le nombre de personnes auxquelles tu parles et avec lesquelles tu interagis. Alors, je pense que c'est cette intensité-là qui m'a marqué, à laquelle tu t'attends peut-être un peu, mais... Quand tu la vis au quotidien, tu te dis ouais, ça j'avais pas vu qu'il y avait autant de parties prenantes. Dans le fond, c'est toute la société. Ça, c'est sûr que ça m'a marqué.
Puis pas le boys club, parce que on demande aux femmes de faire de la politique autrement.
Ouais.
On dirait qu'une fois que la femme arrive au pouvoir, ben il faut qu'elle se plie aux façons de faire qui existent depuis
mais
toujours.
C'est sûr que ça reste un milieu masculin. Ça reste un milieu masculin, mais pas juste. On est quand même. Je regarde dans notre caucus, par exemple, on est plus de femmes que d'hommes. Mais tu regardes ta fonction publique, les postes importants, tu regardes les journalistes, tu regardes dans l'ensemble. Ça reste quand même un milieu assez masculin. Est-ce que c'était une totale surprise? J'ai évolué dans un milieu d'affaires. Je sais c'est quoi se me retrouver dans un milieu d'hommes.
À 24 ans, d'ailleurs, je pense que vous étiez à la tête d'une équipe de 100 personnes.
Oui, majoritairement des hommes.
Chez Procter & Gamble.
Oui, très majoritairement.
Oui, c'est ça.
Oui, très majoritairement des hommes. Donc, c'est sûr que ça, je m'y attendais un peu. Mais, donc, je n'ai pas été totalement surprise non plus, là.
Et comment on fait pour le casser, ce moule-là? Est-ce que ça fait partie de vos buts? Est-ce que ça fait partie de vos... casser ce moule, briser le plafond de verre? On a entendu toutes les expressions possibles et impossibles. Ou on fait son affaire, puis ça finit là?
Mais non, faut surtout pas faire son affaire, puis ça finit là. Je pense qu'il faut réfléchir à des manières de faire qui sont différentes. Il y a une question d'âge, mais il y a une question aussi de mentalité. Moi, je pense à des gens chez nous, comme des députés qui sont... Je leur dis souvent, vous êtes très... Vous êtes peut-être d'une autre génération. Je pense à une Hélène David, je pense à un David Birnbaum, mais qui pense de manière très moderne. Donc, ce n'est pas non plus une question d'âge, c'est une question de mentalité. Puis, je pense que ça se casse en faisant les choses différemment, en mettant toutes sortes de monde autour d'une table. Puis, parfois, les gens me disent, Dominique, mais cette personne-là, elle ne pense pas du tout pareil. J'ai dit, c'est parfait qu'elle ne pense pas pareil, parce que c'est justement, on ne veut pas avoir des gens, des béni-oui-oui, des gens qui disent exactement ce qu'on pense. C'est pas bon. Il faut justement avoir des gens qui pensent différemment autour de la table pour pouvoir arriver avec les meilleures propositions.
La question à 1 million, je ne peux pas ne pas vous la poser, Mme Andelade. On est à un an des élections. Comment on fait pour remonter le Parti libéral qui est vraiment tombé très, très bas lors de la dernière élection en 2018? Il vous reste un an. Comment faire justement pour aller chercher des jeunes, pour essayer de montrer que le Parti libéral peut exister en dehors de Montréal?
Bien, ça, c'est l'incarner, c'est-à-dire être présent partout sur le terrain. La semaine prochaine, je pars pour l'Abitibi. Être présent là, je suis sur le terrain cette semaine. Depuis que je suis revenue de vacances, dans le fond, c'est ce que l'on fait. Donc, de un, c'est ça, mais de deux, c'est arriver avec des propositions qui sont audacieuses. De parler d'enjeux qui interpellent les gens, les questions environnementales, les questions sociales qui sont devenues beaucoup plus prioritaires avec toute la question de la COVID, puis comment on va conjuguer ça avec économie, sociale, environnementale, comment on conjugue ça ensemble. Moi, je pense que c'est avec ces propositions-là qu'on arrive à incarner un véritable nouveau souffle, mais aussi à faire en sorte que les gens ont envie de participer à ça.
Sentez-vous aussi ce besoin de vous distancier de l'ancien Parti libéral avec les gens qui en faisaient partie? Parce qu'il y en a encore, c'est sûr, vous parliez, vous nommiez des gens.
C'est sûr que, pour moi, c'est évident que je ne suis pas comme l'ancien chef du parti ou bien comme les anciens chefs du parti. C'est normal, j'amène ma propre couleur, ma propre saveur au Parti libéral du Québec. Et je pense que c'est surtout important de reconnaître ce qui a bien été puis ce qui n'a pas bien été. Puis de se dire les vraies choses aussi. Tu sais, parfois, on est là, oh, mais là, on ne reconnaît jamais les erreurs du parti. Moi, je suis capable de vous dire des affaires qu'on a faites qui étaient bonnes, des affaires qu'on a faites qui n'étaient pas bonnes du tout. Puis il faut qu'on se le dise. Puis qu'on soit capable de passer outre. Puis surtout, une fois qu'on se l'est dit, de dire, mais qu'est-ce que l'on propose maintenant? Je pense que c'est dans cette perspective-là qu'il faut regarder.
Avant d'aller à la pause, une ou deux questions encore. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui auraient envie de se lancer, mais qui regardent comment ça se passe sur les réseaux sociaux? C'est tellement cruel, la politique, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune que vous auriez devant vous, jeune homme, jeune femme, pour dire « viens-t'en, c'est possible, puis on se fait une carapace, mais une bonne carapace ».
Puis je sais même pas si je leur dirais tu te fais une carapace ou pas. Ce que je dirais, c'est que ce n'est pour tous les messages que tu vas recevoir dans les médias sociaux, t'en as plein que tu vas recevoir aussi qui vont être positifs, qui vont t'encourager, qui vont dire une chance que vous êtes là, etc. Puis on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Si tu veux faire une omelette, à un moment donné, il faut que tu prennes un risque quelque part. Puis c'est vrai que c'est pas facile au quotidien, mais vous allez voir une personne. Moi, j'ai reçu un message hier là, d'une personne, ça m'a touchée. La personne m'a dit, j'ai lu telle affaire, puis ça m'a vraiment marqué. Voilà à quoi ça m'a fait penser par rapport à mon propre cheminement. Puis merci d'avoir partagé votre histoire personnelle, etc. Ben ça fait en sorte que ça te motive. Tu te dis, au moins j'ai touché telle personne. Les médias sociaux, faut en prendre puis en laisser. Faut vraiment en prendre puis en laisser là. Parce que sinon, tu passes ton temps là-dessus. Puis c'est pas sain pour ta santé mentale.
En effet. Et une petite dernière, donc, avant de s'arrêter. On demande aujourd'hui aux politiciens d'être extraordinaires, d'être ordinaires, d'être drôles, d'être sérieux. Où est-ce qu'on trace la ligne? Et parce que moi, je me suis fait dire que vous pouviez être très, très drôle dans la vie. Je vous ai vu dans certaines émissions. Oui, effectivement, vous étiez assez rigolote et tout. Mais comment on trace cette ligne-là, Mme Andelade?
Moi, j'ai envie de vous dire d'essayer d'éviter de tracer la ligne, d'essayer d'être juste... ce qu'on est, être vrai. Moi, je pense que dans le drôle, le sérieux, etc., est-ce que t'es toi-même? Est-ce que tu dis ce que t'as envie de dire? Est-ce que tu parles avec tes tripes? Moi, je pense que c'est ça qui est important au bout du compte. Parce que le reste, là, si t'essaies de cadrer à tel mot qu'il faut que je plug, là, puis telle affaire qu'il faut que je plug, là, tu commences à te mélanger, puis ça fait un discours ça fait un discours langue de bois. Ça fait un discours pas réel, pas tangible. Alors, parfois, là, quelqu'un m'a dit, pourquoi t'as fait ça, Dominique? Parce que j'avais envie, puis parce que c'était moi, puis c'est tout, puis on passe à un autre appel. Alors, cet élément-là d'être ce que l'on est, là, ce que je disais au départ, hein, faire en sorte que chaque personne puisse être tout ce qu'elle peut être, là, ben, on devrait l'appliquer aux politiciens.
Se l'appliquer à soi-même, en effet. Oui. On va s'arrêter le temps d'une courte pause. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en compagnie de Mme Dominique Anglade, députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, chef du Parti libéral du Québec. Lequel vous aimez mieux qu'on dise en premier en ce moment, chef du Parti libéral?
Ben, députée, parce que c'est la première job que t'as. C'est la job de députée.
Comme si c'était pas assez d'être chef de parti. On s'arrête le temps d'une pause.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Marie-Claude Lavallée. Le
Québec maintenant. De retour pour cette belle rencontre de l'été avec Mme Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec, députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Et aussi maman.
Oui.
Hein? Une maman de 3 enfants. On peut parler d'une grosse famille aujourd'hui. Quel genre de maman vous êtes?
Ah, ça, c'est une question pour mes enfants. Ça, c'est pas une question pour moi, je pense. Mais malgré tout, malgré la politique, j'essaie surtout de... Moi, je me dis, j'aime mes enfants. Il y a 3 choses qui sont importantes. Vous devez savoir que vous êtes aimés. Vous devez savoir que vous êtes des enfants extraordinaires. Puis que vous avez plein de choses que vous pouvez offrir. Puis que le plus beau cadeau qu'on vous ait donné, là, c'est vous autres. C'est votre trio, c'est votre fratrie. Puis je pense que avec ces 3 affaires-là, je me dis, si là, on frappe du bois, là, mais demain matin, je vais disparaître, là, je laisse ça à mes enfants, là, ce sera mon leg. Et je pense que c'est ce qu'on essaie de leur communiquer le mieux possible, le plus possible, peut-être des bonnes personnes. Alors, ils vont dire que je suis une maman exigeante. Il y en a un qui me dit que je suis une maman hélicoptère, donc je veux tout sur surveiller. J'ai dit, je suis même pas là pour tout surveiller, fait qu'ils peuvent bien dire ça. Et je suis de rentrer dans la catégorie un peu des mamans un peu malaisantes aussi maintenant, parce que j'ai des ados. Maman, t'es malaisante. Donc, voilà, je pose des questions qui peuvent être gênantes pour eux, mais bon.
L'âge où ils veulent pas que la maman soit trop proche.
Ouais, là, c'est
parce que...
Maman, c'est correct. Là, tu peux y aller. Là, tu peux.
Et ça prend un chum ouvert et compréhensif aussi quand on se lance en politique, surtout quand on est chef de parti avec tout ce que ça prend. Moi, j'ai souvenir de PKP, Pierre-Carl Péladeau, qui avait annoncé en pleurant qu'il quittait la tête de son parti pour s'occuper de sa famille. Diriez-vous, dans votre cas, que vous avez vraiment le partenaire, le mari idéal?
Bien, chose certaine, c'est que ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Puis ça, c'est des sujets dont on parle moins, parce que souvent, c'est des sujets un peu tabous, la personne qui t'accompagne. Mais je pense que la personne qui t'accompagne, elle est essentielle, pas juste en politique, dans la vie en général. La personne qui est avec toi, c'est celle qui te donne des ailes ou pas, hein? Donc, ça a des répercussions réelles. Et nous, ça fait donc 23 ans qu'on chemine ensemble, puis je l'aime. Je suis content de la carrière que lui mène. Je pense qu'il est content de la carrière qu'on mène, mais on n'a pas des... Nos carrières ne s'entrecroisent pas. Et on est 2 personnes assez indépendantes. Et je pense que ça nous aide, ça. Ça, honnêtement, je pense que c'est très bienvenu.
Puis, lui, de se retrouver avec les enfants, c'est pas un problème, là.
Ben non, mais en fait, la politique, si je peux dire, pour des gens qui aimeraient en faire, puis qui ont des enfants, puis qui disent comment ça se passe, ça rend aussi tes enfants plus autonomes, mais ça force aussi quelque part la relation. Je pense que mon conjoint, il n'aurait pas la même relation avec ses enfants si j'étais pas en politique. Il, à un moment donné, il dit, mais mardi, maman n'est pas là, mercredi, maman n'est pas là, c'est moi qui vais m'occuper de ça, etc. Là, donc, ça force aussi une dynamique qui est fort intéressante, puis je regarde aller sa relation avec ses enfants, puis je trouve super beau.
Fantastique. Vous êtes aussi... Une fille, c'est-à-dire la fille de parents qui ont été assez exceptionnels aussi, des parents qui étaient très impliqués, qui sont morts pendant qu'ils étaient en visite en Haïti. D'ailleurs, je pense que personne n'oubliera jamais ce moment à l'Assemblée nationale quand vous avez voulu rendre hommage aux victimes du tremblement de terre de 2010, l'année dernière. Et il n'y avait pas un œil sec au Québec, je pense. Ça fait déjà 11 ans. Comment on se remet d'un choc pareil? Et surtout que vos parents étaient très, très près de vous. Là, on voit au début du livre, on peut revenir sur... On va parler du livre aussi dans quelques instants, quand vous dites que vos parents étaient encore comme si vous étiez une petite fille. Ils tenaient à vous accompagner à l'aéroport parce que vous partiez. Mais c'était donc, comment, du jour au lendemain, on se retrouve sans ce repère si important?
Je pense que c'est d'abord et avant tout le vide. C'est une espèce de vide qui se crée. Un espèce de trou, c'est comme ça que je le définis, un trou. Puis t'apprends à vivre avec le trou. Puis tu dois décider ce que tu vas faire avec. Est-ce que tu vas le laisser béant comme ça ou est-ce que tu vas le remplir de différentes choses, de différentes histoires, de différentes anecdotes, d'événements que tu vas créer pour remplacer un peu leur absence à des moments charnières. Je pense que c'est comme ça que tu y arrives. J'ai pas de solution miracle. Moi, j'ai vécu ça comme un gros chagrin, évidemment, une grande peine. Tu dois apprendre à vivre avec ce trou. Moi, c'est comme ça que je le décrirais le mieux possible. J'ai pas d'autre manière de le décrire.
Le livre s'intitule « Ce Québec qui m'habite ». Vous y faites toutes sortes de révélations importantes aussi, donc sur votre famille, mm-hmm. sur vos parents qui ont oui. été si précieux pour vous, sur votre sœur, sur la dépression de votre maman aussi.
Oui.
Et vous dites c'est pas juste la personne qui est touchée, celle qui souffre, c'est toute la famille oui. autour. Donc, ça vous a forcé, vous, à avoir une situation... vous étiez très jeune,
Oui, j'ai une dizaine d'années, j'avais 10 ans quand ça a commencé, quand ma mère a souffert de dépression, elle a été hospitalisée, etc. Et ça fait prendre conscience du fait que l'enjeu de santé mentale, quand j'en parle, pour moi, c'est d'abord et avant tout que c'est pas un enjeu qui concerne une personne. C'est la personne, c'est son conjoint, sa conjointe, ce sont ses enfants, ce sont les parents de la personne.
C'est tout le monde.
C'est l'employé, l'employeur, tout le monde est touché par ça. Et cet enjeu de santé mentale reste encore un sujet qui est bien trop tabou encore.
Et j'imagine que ça fait partie des défis que vous aimeriez relever si vous êtes première ministre, qu'on s'occupe davantage de santé mentale, que ça cesse d'être un tabou, comme ça l'est malheureusement encore. Le temps file, il nous reste à peu près 3 minutes. Oui. Alors, je vais quand même dire aux gens que pour ceux qui veulent vraiment mieux vous connaître encore, il faut lire ce livre qui est vraiment une vie assez exceptionnelle, Ce Québec qui m'habite, publié récemment. Je voulais m'informer aussi de cette fondation que vous aviez créée avec la chanteuse d'Arcade Fire, Régine oui. Chassagne. Est-ce qu'elle existe encore?
Oui.
Et c'est pour aider les Haïtiens. Ça s'appelle Campé.
Qui veut dire se tenir debout en créole. Mm-hmm. Ça a été lancé il y a 11 ans maintenant. C'est en Haïti que ça œuvre pour accompagner les communautés, les familles haïtiennes vers l'autonomie financière, dans le fond. Et ça existe encore, bien sûr. Très active comme fondation.
Êtes-vous encore impliquée ou à cause de la politique,
vous
devez vous séparer?
Je dois quand même me garder une certaine distance, mais ça ne m'a pas empêché de parler au directeur de Campé la semaine passée pour savoir ce qui se passait en Haïti et puis voir comment les choses avançaient. Donc, je me tiens très informée quand même, mais il y a plein de monde maintenant qui évolue autour de la fondation Campé, donc c'est bien de voir ça.
Petite question rapide, votre plus grande qualité?
Ah! Mais moi, je pense que c'est mon intensité,
Pire défaut? Mon intensité.
Ouais, ben, peut-être parce que parfois, je suis comme on dit, one step too far en anglais, là, mais parfois, j'insiste trop, je pousse trop. Alors, je pense que j'ai les qualités de mes défauts, les défauts de mes qualités.
Et là-dessus, comme on demande à tous nos invités cet été, dans le cadre de nos belles rencontres de l'été, une suggestion, soit lecture, série télé, quelque chose pour ceux qui sont en vacances et qui ont envie de vivre de bons moments.
C'est sûr que moi, je chaque fois que je veux me détendre puis rentrer dans des personnages, j'aime beaucoup Marie Laberge. Alors, le dernier que j'ai lu, c'était un de ses premiers, d'ailleurs, que j'avais pas lu, c'est Juillet. Ça, c'est toujours une bonne lecture. Pour des romans historiques, évidemment, Amine Malouf. Alors, je recommande toujours. Un Amine Malouf, Marie Laberge. Je ne suis jamais trop loin de mes intérêts.
Et dernière question, la DER de DER. Si vous êtes élu premier ministre en 2022, quelle est la première chose que vous allez faire en 15 secondes?
Définitivement, toute la question de la carboneutralité, les changements climatiques, pour faire en sorte que toute la question des changements climatiques puis des enjeux sociaux soient complètement liés à l'économie, puis ça ne fasse plus qu'un, qu'on ne parle plus de un et de l'autre, mais de tout ensemble, une économie humaine qui fait en sorte qu'on allie tout ça.
Quelle belle demi-heure. Merci beaucoup, Mme Andelade. Et puis, le mot de cambronne pour la suite. Et puis, je tiens à remercier mon équipe chaleureusement. Ils sont formidables. Et merci à vous aussi, chers auditeurs, d'être avec nous tous les jours. On se retrouve demain, 15h.
Au revoir.